Bonne nouvelle, en 20 minutes, il n'est pas question de vous faire Staline, vous aurez Robespierre. Ça devrait suffire très largement. Et d'autre part, il y a quelques mois, Pierre était venu me parler de ce projet sur le réalisme et je lui avais proposé quelque chose qui, en effet, je vais essayer de vous dire pourquoi, me paraît passionnant, parce que c'est un objet en indivision entre la littérature et le reste, c'est-à-dire le portrait écrit. Et malheureusement, j'ai fait 110 pages. Et heureusement, Claudia a dit, il m'a décidé, je lui ai envoyé le PDF, il sera pour quelques jours, pas tout le temps, sur le site du Christ. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner envie de lire le PDF. De lire ces 110 pages dans lesquelles 80 pages sont consacrées, même plus, à Robespierre. Et j'ai commencé à esquisser quelque chose sur Staline, tel qu'il est représenté en mots dans Monde, dans Commune, dans la presse française d'avant-guerre et dans l'UMA, etc. Et dans les cahiers du communisme et après-guerre. Mais je reviens à Robespierre. Alors, ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas vraiment de Robespierre, quoique vous allez avoir Robespierre, c'est en effet l'idée de portrait écrit. C'est un objet en indivision, et je commence par d'abord deux pages théoriques, après j'irai très vite. Un objet en indivision entre la littérature, c'est-à-dire le roman nommément, et les dehors de la littérature, c'est-à-dire chez les mémorialistes, les publicistes, les historiens, c'est-à-dire quelque chose de bête comme chou, mais le portrait écrit, c'est-à-dire la description verbale, textuelle, des traits du visage et de l'habitus corporis de personnages réels, notamment de ces personnages que l'on qualifie d'historiques, ou bien de personnages de fiction, et leur herméneutique physiognomoniste, cette science d'évaluer, qui était tellement à la mode au XVIIIe siècle et qui va continuer à inspirer plus tard Georges Sand, Honoré de Balzac et les grands romanciers réalistes, c'est-à-dire qui survit au XIXe, mais dans la sphère littéraire. Et justement parce que pour moi, la notion de réalisme est elle-même une catégorie qui est avant tout pas littéraire. Elle est en indivision, elle aussi, entre les belles-lettres et leur dehors. Le réalisme n'est au contraire, n'est jamais la mise en texte d'un réel unidimensionnel. Il est ce genre d'énoncé dans lequel l'information que l'on vous procure appelle de la part du lecteur, si on était à l'UQAM, il faudrait dire lecteur triste, mais je vais éviter, de la part du lecteur, les mêmes inférences que ce lecteur fait dans la vie empirique. C'est-à-dire pas de réalisme sans une herméneutique du visible, muet en traces déchiffrables de quelque chose, notamment du cachet intérieur de l'imperceptible, et alors évidemment le visage humain, que ce soit celui de Robespierre ou de Madame Bovary, le visage humain est par excellence le lieu du déchiffrement, car le narrateur, au moment où le personnage apparaît, invite à y lire quelque chose qui permet en principe d'anticiper la destinée du personnage et la suite de l'intrigue. Donc, comme je vous dis, je ne vous parle pas de Robespierre, mais bien entendu, ce n'est pas du tout par hasard ni au hasard que j'ai élu pour ma réflexion aujourd'hui les portraits de Maximilien Robespierre, parce que voici près de deux siècles que les contemporains d'abord, les mémorialistes, puis les historiens, et tous les historiens font un portrait de Robespierre. Ils ne font pas un portrait de Biot-Varenne, de Collot d'Herbois, enfin de tous les autres, mais tous s'arrêtent à Danton et Robespierre, on va essayer du reste de comprendre pourquoi, et ceci se présente non pas chez Michelet, Quinet, etc., mais dès le 12 Thermidor. Dès le 12 Thermidor, vous avez des portraits opposés. Danton a été guillotiné en Germinal, on l'avait un peu oublié, mais alors il ressort justement pour incarner tout de suite la bonne révolution contre la mauvaise représentée par Robespierre la Terreur. Et donc, voici deux siècles que les contemporains, les mémorialistes, les historiens et ensuite les romanciers, car c'est aussi le cas que je vous ai choisi, c'est les romanciers viennent tard. Les grands romanciers qui décrivent longuement Robespierre, qui n'ont pas vu parce qu'ils étaient en culotte courte, si je puis dire, sous la Terreur, où ils n'étaient pas nés, enfin, ce siècle avait deux ans, dit Victor Hugo, justement. Victor Hugo vous fabrique dans 93 qui est le premier roman qui porte sur l'an 2. Il vous fabrique un Robespierre littéraire, un très long portrait qui est la rencontre qui n'a jamais eu lieu de Robespierre, Marat et Danton, totalement imaginaire, mais c'est ça qu'on appelle un roman, et il vous fabrique un très long portrait des trois hommes, exactement la même année où Hippolyte Taine fait un portrait de Danton, Marat, etc. Et on ne sait pas quel est le plus fantaisiste de l'historien ou du romancier. Et donc, comme vous le savez, certains d'entre vous me font l'honneur de savoir que j'ai développé il y a bien longtemps la notion de gnosiologie romanesque dans mon travail sur le discours social, c'est-à-dire l'idée qu'il opère dans le discours social au XIXe siècle une gnosiologie narrative romanesque qui, loin d'être le propre du roman, se réalisait dans le roman avec son statut ambigu de fiction imaginative, comme elle se réalisait aussi dans le réquisitoire de l'avocat général, y compris dans les réquisitoires fictionnels comme l'avocat général contre Champmathieu dans Les Misérables, dans la chronique du publiciste, dans l'œuvre du mémorialiste, dans la leçon de clinique du médecin. Le docteur Charcot, dans les leçons du mardi, fait venir les malades de la Salpêtrière et fait, en attendant Freud, du reste, de longues citations littéraires avec Sophocle, Euripide, etc., pendant que le malheureux mec, le patient, ne comprend pas un seul mot. Et quand le pronostic est mauvais, chez Charcot, il passe au latin en disant « prognosis letalis et properatus ». Et l'autre continue à avoir un bon sourire, mais pour les étudiants qui n'ont pas fait de latin, vous avez peut-être un bon sourire, mais ce n'était pas vraiment très, très encourageant. Et donc, en effet, j'ai étudié notamment le drame de Maeterlinck, qui est entièrement indexé de janvier 1889 sur des représentations. Maeterlinck est l'héritier, enfin, Rodolphe est l'héritier de la couronne impériale et royale, comme on disait, d'Autriche-Hongrie, et il se flingue après avoir flingué sa maîtresse de 16 ans au rendez-vous de chasse de Maeterlinck. Ça s'appelle une belle histoire qui, dans le réel, a un air très romanesque. Et donc, j'ai essayé de suivre les différents textes de ce genre. Je me rapportais notamment à une notion du formaliste russe Yuri Tinianov, qui appelle prium maski, le procédé du masque, l'élaboration, dit-il, de motifs concrets, apparemment liés à l'aléatoire des circonstances narrées au début du récit, mais laissant deviner subtilement la psyché du personnage, c'est-à-dire l'information touche à ce que, dans le visage qu'on leur prête, et dans leur apparence physique, dans leurs gestes et leurs tics, dans leur comportement, qu'est-ce qui dénote le type humain auquel ils apparaissent. Et je me rapporterai, je voudrais quand même au moins citer son nom, je viens d'un colloque où j'ai discuté avec lui, de Jean-Jacques Courtine, qui est l'auteur d'une histoire du visage, et qui est avec Claudine Haroche, un excellent travail. Bon, je passe maintenant toutes sortes de pages, je vous rappelle quand même une phrase de Marc Bloch, qui est une phrase désespérée d'historien français du XXe siècle, et qui écrit « Robespierriste, anti-Robespierriste, nous vous crions grâce, par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre ». Ce qu'il voulait dire, c'est que l'histoire engagée et partisane ne peut pas être vraiment de l'histoire honnête et utile, et, ajoutait-il, par malheur, à force de juger, on finit presque fatalement par perdre jusqu'au goût d'expliquer. Il visait ses deux collègues, enfin l'un était mort, et je crois qu'ils étaient morts tous les deux à l'époque, Ollard, qui est un dantoniste, et donc qui décrit Robespierre comme, vous allez le voir, le dernier des salopards, et ça se voit sur son visage, et Mathieu, qui trouve Robespierre un homme charmant, très agréable, etc., et avait fait une dépression nerveuse tellement sa haine de Danton était forte. Et voilà, donc j'essayerai de vous rappeler tout ça, mais je passe aussi sur tout ceci, et je vous dis quelques mots de ce qui est essentiel, qui est tout ce que nous appelons réalisme. Au XVIIIe siècle, s'inscrit non pas du tout dans le roman picaresque de Le Sage réaliste ou chez Laclos, je sais quoi, ça ne s'inscrit peut-être pas chez les mémorialistes, ça s'inscrit exactement dans une chose qui, pour les milieux mondains, vous allez voir que les Jacobins sont en reste, et pour les milieux mondains, est une science. Mais c'est une science qui est entièrement dévalué et répudié par les vrais savants, Linné, Buffon, enfin, toute la science naturelle considère que la physiognomonie est du bullshit. C'est pas une science sérieuse. Et en effet, ces deux sciences qui ont pénétré la mondanité, la physiognomonie, c'est-à-dire l'idée que l'extérieur et particulièrement le visage, mais aussi l'habitus du corps, peu révèle que le visage et le miroir de l'âme. Que le visage et le miroir de l'âme, c'est chez Aristote. Et Aristote est aussi le premier, notamment dans les premiers analytiques, qui va faire un truc qui était absolument essentiel pour les portraits de Robespierre, c'est-à-dire la zootypie. Dès la Renaissance, il y a des hommes ânes, qui sont des ânes, il y a des hommes cochons, genre Dominique Strauss-Kahn, etc. Il y a des hommes qui ressemblent à des mulets, donc ils sont sournois comme des mulets, il y a des hommes ours, qui sont ressemblant à des ours, sont mal élevés comme des ours, je ne sais pas pourquoi. Les ours pour mal élevé. Donc la physiognomonie m'intéresse ici parce que vous allez voir dans tous les exemples qui vont défiler que tout ce qu'on dit de Robespierre, d'abord les contemporains qui disent « je l'ai vu », puis les gens qui n'ont pas pu le voir parce qu'ils n'étaient pas nés, mais qui font néanmoins un portrait de plus en plus long de Robespierre, qui n'ont évidemment pas vu. La physiognomonie, comme vous le savez, est fondée sur des deux choses très bizarres. L'un, le corpus hippocratique, c'est-à-dire la théorie des tempéraments. Il existait pour Hippocrate quatre humeurs qui déterminaient le caractère de l'individu. C'est une médecine bizarre. Le sang était produit par le foie et reçu par le cœur. Et ça faisait le caractère sanguin ou jovial. Et justement, qui c'est qui est sanguin et jovial? Danton. Ensuite, le phlegme ou la lymphe est rattaché au cerveau et circule dans le corps, qui produit le caractère phlegmatique. Si vous avez un exemple, il y a des races phlegmatiques au XIXe siècle, donc Jules Verne, le tour du monde en 80 jours, Phileas Fogg est typiquement un phlegmatique, car tous les Anglais sont phlegmatiques, ils sont dominés par le phlegme, tandis que son domestique Passepartout est typiquement un sanguin, car les Français sont des sanguins. Et puis il y a les deux biles chez Hippocrate, la bile jaune qui vient du foie et qui engendre le caractère bilieux enclin à la violence, alors où est Robespierre? On va arriver tout de suite, et en effet, qui engendre un teint verdâtre et jaunâtre, et Dieu sait que Robespierre était, pour tous les contemporains, verdâtre et jaunâtre. Et ensuite, la bile noire, ou atrabile, qui se dit, enfin, atrabile en latin, mais en grec c'est melanon kolon, c'est-à-dire mélancolique, et qui provoque le caractère mélancolique et anxieux. Et puis, ceci est lié, c'est un bric-à-brac épistémique très bizarre, à l'idée de l'affinité caractérielle et physionomique entre l'homme et l'animal, et je vous ferai tout un bel exposé, vous avez même des photos dans lesquelles vous verrez le type qui ressemble à un ours, qui est mal élevé comme tous les ours, et puis je passe sur des tas de pages, particulièrement sur le passage de la physiognomonie à l'antisémitisme, au social-darwinisme et au racisme au XIXe siècle. Vous allez lire, et vous avez tous lu, L'homo delinquente, l'homme criminel de Cesare Lombroso, qui représente justement le criminel comme ayant toute une série de caractères qui le rattachent à l'homme de Néandertal. Et la donna delinquente, la femme criminelle, qui est encore plus néandertalienne, était médecin des prisons, s'occupait des femmes emprisonnées à Turin, et apparemment elles étaient frognates, elles avaient un chignon occipital, des arcades sourcilières, en effet, typiquement la femme de Néandertal, ce qui expliquait leur penchant à la promiscuité sexuelle. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que Lombroso, qui était de Turin, pensait qu'au sein même de l'Italie blanche, dit-il, la race du Sud est moralement inférieure à la race du Nord. Bon. Ouais. On est bien, on est dans le bonheur. Je vous passe sur la notion de très acquis et je voudrais vous sur une démonstration qui est que Bourdieu est le dernier héritier extrêmement tardif et très peu scientifique de la théorie physiognomoniste dans la notion d'existe, existe, etc., comme mythologie politique incorporée. Puis je passe sur la notion de tête de l'emploi. Les gens qui ont la tête de l'emploi, c'est un vieux terme de théâtre. C'est les comédiennes qui ont l'air de soubrettes, les comédiens qui ont l'air de père noble et qui vont pouvoir remplir l'emploi. Mais je pense qu'en effet, à la manière de Sarkozy se regardant dans son miroir et se disant qu'il avait la tête d'un président de la République, il y a des tas de gens qui ont eu la tête de l'emploi. J'ai fait un long développement sur le fait que sur Jules Guesde, l'introducteur du marxisme en France, parce que son biographe a fait un livre qui s'appelle « Jules Guesde ou le socialisme fait homme ». Moi, je m'intéresse à ces catacrèses religieuses. Le socialisme fait homme, car c'est l'incarnation, et on dira justement tous, dès le 12 Thermidor, Robespierre est la terreur fait homme, ou, c'est pour ceux qui l'aiment, il est la révolution fait homme, etc. Si vous voulez savoir comment était le socialisme fait homme, vous avez un timbre-poste avec Jules Guesde qui vous donnera une bonne idée de ce que c'était. Et donc j'arrive maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire au portrait d'époque du citoyen Robespierre par les Thermidoriens. En effet, tous ces gens ont écrit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont écrit d'abord immédiatement après le 9 Thermidor. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses ici. C'est, quand on dit les Thermidoriens, je veux vous rappeler une leçon d'histoire de 10 secondes. Oui, je le sais, mais je n'y arriverai pas. Mais je n'ai pas encore mon premier exemple. Les Thermidoriens, c'est-à-dire les gens qui se débarrassent de Robespierre, c'est dans le comité de salut public, Biot, Varenne, Collot d'Herbois. En dehors, c'est Tallien, Fréron, Fouché, de justement des corrompus, de parfaits corrompus, et que Robespierre en tant qu'incorruptible avait dans le viseur, et dont il savait parfaitement qu'ils allaient y passer si ça continuait. Donc c'est pas, comme on dit d'ordinaire, les Thermidoriens, c'est les Girondins et les Dantonistes qui sortent de prison, mais c'est pas eux qui agissent. Ceux qui agissent, c'est ces gens-là. Et donc voici la première description, elle est dans les Nouvelles Politiques, qui est une feuille crypto-royaliste, mais elle est datée du 13 Thermidor, donc c'est presque le scoop, le journal. Et c'est une description de Robespierre. Je vais maintenant, pour les prochaines minutes, non pas vous lire mes analyses, qui sont très bonnes, mais vous lire des descriptions d'époque. Sa taille étouée était de 5 pieds, 2 ou 3 pouces. Son corps jeté d'aplomb, sa démarche ferme, vive, même un peu brusque. Il crispait souvent ses mains, comme par une espèce de contraction des nerfs. Le même mouvement se faisait sentir dans ses épaules et dans son col, qu'il agitait convulsivement à droite et à gauche. Ses habits étaient d'une propreté élégante, et sa chevelure toujours soignée. Sa physionomie, un peu renfrognée, n'avait rien de remarquable. Son teint était livide et bilieux. Voilà les tempérament qui s'amène, ses yeux mornes et éteints. Un clignement fréquent semblait la suite de l'agitation convulsive dont je viens de parler. Il portait toujours des conserves, c'est-à-dire des lunettes solaires. Il savait alors, donc, on ne voyait jamais. Autrement dit, Robespierre avait une fâcheuse tendance à la Convention à retirer ses lunettes pour fixer quelqu'un dans la salle qui se disait bien. Et il savait adoucir avec art sa voix naturellement aiguë et criarde, et donner de la grâce à son accent artésien. Vous voyez que la feuille étant de Paris, déjà l'accent picard apparaît comme un très mauvais signe, et le texte se termine, « Mais il n'avait jamais regardé en face un honnête homme. » Remarquez, s'il avait la vue basse. Alors, je vous passe sur des tas de choses, y compris sur à la fois la découverte de la lithographie, 6 ans plus tard, et le lancement des images d'Épinal avec toute l'épopée de Bonaparte, etc. C'est-à-dire le fait que, on est, dans le sens de Nathalie Heinisch, on est passé de l'ère de la légende à l'ère de la visibilité, et justement, ça tranche après Robespierre. Mais je voudrais vous arriver à d'autres portraits de Robespierre. En voici un. Bon, j'en ai quand même... il était d'une taille moyenne, avait la figure maigre, la physionomie froide, le teint bilieux et le regard faux, des manières sèches et affectées, le ton dogmatique et impérieux, le rire forcé et sardonique. C'est pas le genre de type qu'on a envie de rencontrer. Ici, voici de l'abbé d'Arras, Broyard, encore un dernier, je vous en donne encore deux ou trois. Le texte dit « Avant d'entamer le récit de la vie publique de Robespierre, nous dirons un mot de son extérieur, qui n'avait rien que de très commun. Il était de la taille médiocre et de la figure la plus plate. » Plate vraiment prend le sens qu'il a au Québec, c'est-à-dire tout à fait banal. « Il portait sur de larges épaules une tête assez petite. Il avait les cheveux châtain blond, le visage arrondi, la peau médiocrement gravée de petites véroles, le teint livide, le nez petit et rond, les yeux bleu pâle et enfoncés, le regard indécis, l'abord froid et repoussant. Il ne riait jamais, à peine souriait-il quelquefois, encore n'était-ce ordinairement que d'un sourire moqueur qui décelait tout le fiel d'un caractère atrabilaire. » Voici atrabilaire qui s'amène, c'est le quatrième tempérament, et la marque de petite vérole, je vous passe sur des tas d'autres, j'ai pas encore les analogies animales, ça me prend une minute. Oui, je conclue, mais il n'y a pas de conclusion. Les gens qui se plaisent, c'est Merlin de Thionville, les gens qui se plaisent à trouver des rapports entre les figures et les qualités morales, entre les figures humaines et celles des animaux, ont remarqué que comme Danton avait la tête d'un dogue, Marat celle d'un aigle, Mirabeau celle d'un lion, Robespierre avait celle d'un chat. Mais cette figure changea de physionomie. Ce fut d'abord la mine inquiète mais assez douce d'un chat domestique, ensuite la mine farouche d'un chat sauvage, puis la mine féroce d'un chat tigre, etc. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, je termine, je vous résume. de Robespierre tel que des gens prétendent l'avoir vu, et ils ont tous écrit après Thermidor. On passe aux historiens, essentiellement Michelet, Quinet, etc., qui ne l'ont jamais vu, mais font néanmoins un portrait de plus en plus long. Et vous me direz qu'ils pourraient recopier les moins extravagants des portraits des gens qui l'ont vu, mais pas du tout. Ils ne le font jamais. Ils vont décrire un Robespierre à eux. Edgar Quinet, c'est une page et demie, donc il le trouve très différent de ses prédécesseurs. Ensuite, sur le tard, vous avez les deux grands romans qui se centre sur la terreur, c'est-à-dire 93 de Victor Hugo, qui en fait est une manière de déplacer l'année terrible de 1871 dans le temps pour remonter à cette autre année terrible qu'était l'an 2. Et là, dedans, vous avez, je ne vous le citerai pas, vous êtes privé, un très long portrait de Robespierre, avec des tas de détails que personne n'avait encore aperçu avant Victor Hugo. Et puis, vous avez un nouveau Robespierre, qui est très très bien, celui des dieux ont soif. Il n'apparaît pas comme un personnage important, les dieux ont soif d'Anatole France, mais le roman est de 1912. Ça a pris un siècle avant qu'on ne raconte la terreur d'une manière romanesque. Et puis vous avez, et ça vous prendra un temps fou que je ne prendrai pas, le théâtre, c'est-à-dire les innombrables Robespierre de théâtre, particulièrement Thermidor de Victorien Sardou, dans lequel vous avez même Robespierre qui est arrêté à la Convention et tout, au cinquième acte, et c'est bien là que Clémenceau prononce la phrase célèbre « La Révolution est un bloc ». Car Sardou avait fait une pièce anti-robespierriste, mais favorable à Danton et aux Girondins. Et donc, on ne peut pas défendre Danton et les Girondins si c'était pour attaquer les Jacobins. Après ça, ça continue, ça s'aggrave, et ça se termine, vous allez voir, au Québec. Mais ça se termine d'abord en Pologne, avec, on repasse à l'image, avec le Danton de Vaïda et Wojciech Szczolniak, qui est un grand comédien qui joue Robespierre, et ça se termine au Québec avec Ubisoft Montréal, qui vient de lancer un jeu vidéo qui est un succès mondial, Assassin's Creed, dans lequel une sorte de psychopathe baveur apparaît dans le jeu, c'est Robespierre, et car le jeu se passe dans l'an 2, et vous devez essayer d'éviter d'être ou guillotiné, ou noyé dans la Loire avec Carrier, ou fusillé par Fouché à Lyon, enfin, une vie épouvantable. Voilà. Merci.